Le journal de Nicolas Meusy.
Bonsoir. Le fonctionnement des familles jurassiennes passées au crible. L'Office fédéral de la statistique a mené une enquête il y a 2 ans. Les résultats publiés récemment nous apprennent quelle est la proportion de couples dans le Jura ou encore comment est répartie la prise en charge des enfants dans les ménages. La Suisse dispose d'un nouvel outil pour mieux surveiller les épidémies. Le centre de bioinformatique des pathogènes a ouvert ses portes aujourd'hui à Berne. Le travail des chercheurs sera partagé avec les autorités suisses et internationales. Après Wengen, place à Kitzbühel, les skieurs suisses sont très attendus sur la Streif. La piste autrichienne accueille 3 épreuves de Coupe du Monde, descente et slalom ce week-end, Super G demain, sur lequel Marco Odermatt et Justin Murizier veulent se montrer. Météo, le temps sera sec ce soir et cette nuit. Un net redoux est attendu demain avec des températures autour de 10 degrés en pleine comme sur les hauteurs. Des conditions douces qui se poursuivront sur une bonne partie de la journée de samedi avant le retour de la pluie. Comment fonctionnent les familles jurassiennes? Grâce à l'enquête menée en 2023 par l'Office fédéral de la statistique sur les familles et les générations, le canton du Jura a récolté de nouvelles informations. L'infolettre sur la statistique jurassienne parue hier nous en apprend plus sur la vie à deux, notamment Marinelle Mittenberger.
Si vous m'écoutez actuellement, il y a de fortes chances pour que vous soyez en couple. Les statistiques le prouvent. En effet, près des 3/4 des personnes âgées de 18 à 80 ans sont en couple dans le canton. Les modes de rencontre ont passablement évolué. Parmi les personnes qui ont rencontré leur partenaire au cours des 5 dernières années, 26% l'ont fait grâce à Internet, notamment via les réseaux sociaux et autres applications de rencontre. À titre de comparaison, la proportion est de moins d'1% pour les couples qui sont ensemble depuis plus de 15 ans. Parmi ces couples, il y en a qui ont des enfants, évidemment. Dans la majorité des ménages jurassiens concernés, c'est la mère qui s'en occupe le plus. C'est elle qui reste principalement à la maison quand les enfants sont malades et qui les aide à s'habiller. En ce qui concerne le fait de jouer avec eux et de les mettre au lit, les tâches sont plus équitablement partagées entre les deux parents. Et lorsque ceux-ci ne peuvent pas s'occuper de leurs bambins, les grands-parents jouent un rôle important. Plus d'un tiers d'entre eux disent garder leurs petits-enfants au moins une fois par semaine et un quart au moins une fois par mois. Un autre quart n'effectue en revanche jamais cette tâche.
Et si certains grands-parents ne gardent pas leurs petits-enfants, ça ne veut pas dire qu'ils ne les voient pas. Plus de 90% des grands-parents sont en contact avec leurs petits-enfants au moins une fois par mois. Autre manière de fonctionner à présent, celle pour se rendre à l'école. Et dans le Jura, la pratique des transports publics est bien implantée. Si les horaires le permettent, les cercles scolaires du canton sont incités à véhiculer les élèves par le biais de transports en commun. Cette possibilité est financièrement plus avantageuse pour l'État. Elle permet également aux élèves de bénéficier d'une autonomie et les sensibilise à l'usage des transports publics. Mais selon Gérald Marchand, responsable des transports scolaires au service de développement territorial, cette solution suscite parfois des craintes.
En général, quand c'est nouveau, il y a une forte réticence. Les gens qui n'ont pas connu ont très peur de s'imaginer des petits-enfants dans les grands bus. Il y a déjà cette grandeur de bus et de petits-enfants. Et puis, les gens sont sceptiques. Mais il y a aussi des gens qui disent « Ah, ben, c'est peut-être une bonne solution » ou bien par idéologie, ils disent « C'est écolo » ou bien des gens qui utilisent déjà eux-mêmes les transports publics avec leurs enfants pour leurs loisirs. Et ben, ils disent « Ben oui, ça donne de l'autonomie aux enfants ». Et puis d'autres gens qui se disent ben, « Peut-être effectivement mes enfants, ça leur apprendra à se déplacer tout seul et puis ça les aidera à se développer ». Mais il y a quand même une frange de la population, il ne faut pas le cacher, qui a des grosses craintes au début. Mais moi je vois la différence si je cause dans des villages où les parents ont eux-mêmes connu le transport scolaire avec le transport public. Là, ils sont tout de suite plus ouverts parce qu'ils disent « Ah ouais, moi je l'ai eu dans les années 90, c'était comme ça, on allait déjà en transport public ». On prenait la poste pour aller à l'école, c'est comme ça qu'on me dit. Et puis ça allait. Alors ces gens-là, ils disent « moi je l'ai fait, mes enfants pourront le faire ». On voit tout de suite une différence par rapport à des gens qui n'ont jamais utilisé le transport public, ne serait-ce que pour eux, pour aller travailler ou bien pour leurs loisirs, ou bien des gens qui n'ont pas connu le transport pour aller à l'école.
Déplacement d'élèves par le biais des transports en commun ne devrait toutefois pas se développer ces prochaines années, à cause notamment des mesures d'économie de la Confédération dans le domaine des transports. Un gros dispositif de police déployé hier matin à Belpraon. Des témoins ont aperçu plusieurs voitures de la police cantonale bernoise au centre du village. Contactées aujourd'hui, les forces de l'ordre confirment avoir mené une opération d'envergure. Les précisions d'Anthony Montandon.
Il s'agissait d'une perquisition effectuée sur ordre du ministère public. L'opération s'est déroulée dans un appartement situé dans l'ancien restaurant. Sur place, les agents ont découvert une installation de culture de cannabis. La police précise qu'entre 200 et 300 plantes ont été saisies avec le matériel de culture. Une personne a été arrêtée provisoirement, auditionnée puis relâchée. Elle devra répondre devant la justice, entre autres, d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Une enquête a été ouverte.
La médaille d'or de la chanson connaîtra une 56e édition avec une très légère touche jurassienne. Les organisateurs du concours musical ont dévoilé aujourd'hui la liste des 12 artistes sélectionnés parmi la centaine de dossiers reçus. Ils se produiront à Seignelégier les 25 et 26 avril prochains. Trois participants suisses, le Fribourgeois établi en Ajoie Onimo, les Chaudefonniers d'Osmos TV et la Genevoise Bleu Carmin. Il y aura aussi 8 artistes français et un belge. Les styles musicaux seront variés, du rock au slam en passant par l'électropop ou encore la musique urbaine. Les notes, une source de stress constant pour les étudiants. L'université de Fribourg a choisi de les supprimer dans son master en médecine. C'est ce que rapportait la RTS ce matin. L'université de Neuchâtel, elle, maintient les notes qui sont importantes selon le porte-parole de l'UNINE, Nando Luginbühl.
Est-ce que c'est important de savoir si on a fait 6, 5,5 ou 4 pour pouvoir être suffisant et avoir réussi ? Et est-ce que ça change quelque chose de savoir si on a fait 3,5 ou 2, si on n'a pas réussi, par exemple ? À partir de là, c'est quand même intéressant, quand on a fait des études, de ne pas ressortir de là avec la question « mais qu'est-ce que je vaux en fait ?» Et c'est la question qu'on pourrait se poser si on n'avait pas ce détail et ces paliers différents qui nous permettent de savoir vraiment où on se situe au niveau de l'exigence attendue. Et ça peut être intéressant, quand on a terminé ses études, de pouvoir disposer de détails sur sa moyenne, etc. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de prendre avec soi quand on va poursuivre ensuite sa carrière.
Le porte-parole de l'université de Neuchâtel explique aussi que le système de notation fait partie intégrante de la culture académique, mais précise toutefois que l'idée de les supprimer pourrait être analysée à l'avenir. Bactéries, virus, champignons, le nouveau centre de bioinformatique des pathogènes a été inauguré aujourd'hui à Berne pour améliorer la surveillance des épidémies. Les chercheurs vont récolter les données des laboratoires de microbiologie et de virologie. Ils vont les vérifier, identifier les mutations, les variants et partager ces informations avec les autorités suisses et internationales. La directrice du centre, Aitana Neves, dévoile ce qui a motivé la création de cette nouvelle structure.
Pendant la pandémie, de nombreux groupes de l'Institut suisse de bioinformatique ont été très activement impliqués dans la réponse à la pandémie, avec notamment une plateforme de gestion des données centralisée, SPSP, des dashboards qui étaient utilisés même à l'international, comme Nextstrain ou CoughSpectrum. Et aujourd'hui, on a réalisé d'une part la nécessité de pérenniser tous ces outils et ces infrastructures et de se coordonner encore davantage entre les différents acteurs de l'Institut. Et donc ce centre vient répondre à ces besoins-là.
Quels sont peut-être les objectifs du centre sur le plus long terme ?
Alors, sur le long terme, le centre vise à devenir un centre de référence en bioinformatique des pathogènes qui s'inscrirait dans toute politique suisse de surveillance ou de préparation de réponse aux épidémies. On pourrait imaginer, en cas de crise, justement d'avoir comme une cellule bioinformatique de crise qui serait vraiment facilement activable avec des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui peuvent rapidement répondre aux besoins qui émergeraient.
Propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. La Suisse a enregistré 25 morts, dont 3 enfants, suite à des accidents dans l'agriculture l'année passée. Le service de prévention des accidents dans l'agriculture et la fondation Agris communiquent aujourd'hui les statistiques pour 2024. Des chiffres plutôt similaires à ceux des années précédentes, Amélie Gerber.
En moyenne, près de 30 accidents mortels dans l'agriculture sont recensés chaque année depuis 2015. La cause principale de ces décès est la chute de véhicules. En 2024, parmi les 25 accidents mortels, 8 personnes, dont un enfant, sont décédées à la suite de renversement d'une machine agricole, 3 après être tombés eux-mêmes d'un véhicule ou après avoir été soulevés par un engin de manutention. D'autres types d'accidents ont également été enregistrés, comme l'intoxication par des gaz de lisier, la chute d'objets ou l'attaque par un taureau. Il est important de préciser qu'il n'y a aucune obligation de déclarer les accidents d'origine agricole. Il est donc possible qu'il en existe davantage.
Donald Trump met en garde le reste du monde. À Davos, le président américain a réitéré sa menace de tarifs douaniers aujourd'hui en vidéoconférence lors du Forum économique mondial. Il a exhorté les autres pays à faire fabriquer leurs produits aux États-Unis plutôt qu'ailleurs pour profiter ainsi d'avantages fiscaux qu'il juge considérables.
RFJ, il est 18h10.
RFJ, sport.
Une finale féminine inattendue à l'Open d'Australie de tennis. Madison Keys, 14e joueuse mondiale, a éliminé cet après-midi en demi-finale la numéro 2, Iga Świątek. L'américaine a dominé la polonaise en 3 manches, 5-7, 6-1, 7-6, et rejoint en finale samedi à Melbourne Aryna Zabalenka. La biélorusse et numéro 1 mondiale est en quête d'un 3e titre consécutif à l'Open d'Australie. La Streif les attend de pied ferme. Les skieurs suisses ont rendez-vous à Kitzbühel pour 3 épreuves de Coupe du Monde sur la piste autrichienne. Un slalom dimanche, mais avant cela, la vitesse. Super G demain et descente samedi. Des épreuves pour lesquelles les Alvettes feront figure de grandissimes favoris. En pleine bourre depuis le début de l'hiver, ils sont nombreux à pouvoir prétendre à une place sur le podium dans le Tyrol autrichien. Et le premier d'entre eux est évidemment Marco Odermatt. Le Nidwaldien est déterminé à l'emporter.
Je veux gagner ici, c'est clair, mais c'est très difficile. C'est le plus grand challenge pour gagner ici. Et tous les autres athlètes veulent gagner aussi, alors c'est pas facile.
Après Wengen, une 7e place, alors pour beaucoup de skieurs, ce sera un bon résultat. Pour vous, c'est peut-être une petite déception. Il y a une envie de revanche, de remonter sur la boîte en Super G.
Oui, bien sûr, je vais faire une revanche, mais aussi le focus est aussi en samedi. Mais bien sûr, le Super G, c'est très important aussi. Et je vais faire une bonne performance en Super G.
Un autre skieur suisse attend les épreuves de vitesse avec impatience. Le Valaisan Justin Murizier veut être à son avantage à Kitzbühel demain, avec pour motivation les championnats du monde à Saalbach début février. Justin Murizier.
C'est vrai qu'en Super G, je dois vraiment performer si je veux espérer d'aller aux Mondiaux. Tandis qu'en descente, c'est différent. Je suis déjà qualifié pour les Mondiaux et maintenant, il reste simplement à continuer sur la lancée que j'ai eue. On voit que je suis très constant. J'ai aussi su et vu ce qui m'a manqué à Wengen pour jouer le podium. Donc j'espère qu'ici, j'arriverai à me dépasser un poil plus pour aller chercher tout devant moi. Ouais.
Un sujet de notre envoyé spécial dans le Tyrol autrichien Christophe Moreillon. Avant le slalom de dimanche et la mythique descente de samedi, c'est donc par un Super G que seront lancées ces épreuves de Kitzbühel demain. Premier départ prévu à 11h30. Le commerçant en ligne Brac devient le sponsor principal de la Super League de football. Le contrat avec la première division helvétique entrera en vigueur à partir de la saison prochaine et court sur au moins 5 ans. Brac remplace Crédit Suisse qui entre-temps avait été repris par UBS. Brac avait déjà été sponsor de la Challenge League de 2013 à 2021. Son successeur de l'époque, le livreur de pizza Dietschi, a prolongé de 3 ans son contrat de sponsoring de la deuxième division. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute. Écoute, je vous souhaite une très bonne soirée.